podcast, on va brièvement présenter. Alina, est-ce que tu veux justement t'introduire, te présenter et dire le titre de ce podcast?
Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique.
Et cet épisode en particulier?
Et cet épisode, c'est l'épisode qui questionne le Paris 2024, jeu queer, avec un gros point d'interrogation évidemment, et l'idée de partir du corps performatif pour aller à un corps en action qui se libère de toutes les normes et du système hétérosexualité.
D'accord. Et toi Marie, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît?
Bonjour, je m'appelle Marie Patouillet, je suis athlète paralympique, je pratique du cyclisme sur piste et sur route.
Et toi Alexia?
Moi c'est Alexia Cernis, donc je suis la première femme transgenre à évoluer dans le rugby élite en France.
Et donc toutes les deux vous intervenez dans ce podcast, dans cet épisode, avec d'autres personnes qu'on va entendre. Justement on va écouter une partie de l'épisode avant de passer à un moment de questions-réponses, en fait, d'échange entre nous, mais aussi avec vous. Donc soyez bien toutes et tous attentifs. Et on peut lancer l'épisode maintenant, je pense. Merci beaucoup.
Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.
Bonjour Elba Diouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Je suis une femme, il va falloir dealer avec ça.
Le sport, tant qu'il se réfléchit de manière binaire en séparant homme-femme, il n'y a pas de bonne réponse entre l'équité et l'inclusion. À un moment donné, il faut choisir.
Enfin, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que les choses allaient devenir compliquées et que je n'étais pas dans mon corps visiblement.
Tous ces enjeux sociaux qui touchent au corps, la reproduction, la sexuation, à chaque fois qu'on inclut des gens, c'est toujours au détriment d'une nouvelle marginalité qu'on a créée et qui devient la nouvelle bête noire dont on n'a pas envie d'entendre parler.
I am Kasta Mokhadise Meya, I am woman and I'm fast.
Ça change rien à la vie, donc acceptez moi comme je suis, comme moi je vous accepte comme vous êtes.
Jeu 2024, Paris Queer, un épisode d'Enquête des Possibles. Bienvenue sur So Good Radio.
Paris 24, Los Angeles 28.
Une série de Mélina Boetti.
Et toi, Papa Kino!
Le premier défaut, Daniel Bailey, dans le tapis, c'est le serpent qui passe!
48.26, a new Olympic record, the first woman in history to defend the title.
Ce 16 octobre 68, à 19h17, une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques.
Sur l'autel du tout-puissant sport moderne, un monstre sacré, le corps performatif. Celui que nous allons interpeller dans son plaisir à concourir, son refus d'obtempérer, sa liberté à se mouvoir, à vibrer au départ comme sur la ligne d'arrivée. Car qui font les Jeux? Des athlètes en quête de médailles et de records, mais surtout des corps en action, sous le feu des projections et des assignations. Parmi eux, des corps sportifs qui défient le genre loin de la binarité homme-femme, des corps musclés, scrutés, testés malgré eux face aux doutes de leur non-féminité, des corps à la sexualité revendiquée hors de l'hétéronormativité. Le corps, ce lieu habité de toutes les révolutions. Il est en ce sens désirable de s'y intéresser, en quête de tous les possibles. Avant de partir, un point lexical. Dans cet épisode, il va être question de transidentité. De femmes trans, des femmes donc, et d'hommes trans, des hommes donc. Leur genre choisi, et non celui qu'on leur a assigné à la naissance. À l'inverse des personnes dites cis. À distinguer aussi des personnes intersexes, nées avec des caractéristiques sexuelles considérées comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales typiques du féminin et du masculin. L'intersexuation peut se révéler chromosomique, toucher les organes génitaux ou encore la production hormonale. Cela concernerait une quarantaine de variations. La société change. Depuis la génération Z, nos êtres se parent d'horizons queer. Du genre, ils s'en moquent, et de leur souffle, nos vies à tous se déploient. J'aime pas les chiffres, mais ne comptons pas notre fierté. Ludan Têtu, avec 182 athlètes out, la communauté LGBTQI+, était 3 fois plus représentée aux Jeux de Tokyo qu'à Rio en 2016. Bisous de Coubertin. Allez, filons sur le terrain de sport, du corps, des identités plurielles et mouvantes, où il n'y a pas de plus fort. Étonnamment, CIO, le Comité international olympique, a décidé dès 2003 de mettre des règles sur l'inclusion des personnes trans. Angers, Ludivine Brunès, professeure de PS, thèse sur la relation des jeunes adultes trans et la pratique sportive de loisirs.
Donc c'est quelque chose qui était hyper avant-gardiste. On était quand même en 2003 encore sur la transidentité qui était reconnue comme une maladie mentale à la fois en France et par l'OMS. En France, c'est en 2010 qu'elle est plus reconnue comme maladie mentale. Par l'OMS, c'est seulement 2019. On était sur des droits pour les personnes trans quasi inexistants. Il et elle étaient obligés de passer par une réassignation sexuelle, une chirurgie de réassignation sexuelle. Donc on était sur quelque chose plutôt, même si c'était très contrôlé, la présence des personnes trans, elles étaient tout de même autorisées d'une certaine manière.
Si on remonte sur l'histoire du sport moderne, parce que c'est ce dont on parle, et le sport moderne, en fait, c'est assez récent, quoi, ça fait 150 ans que ça existe.
Paris, Lucie Palaisi, joueuse de hand au club Décalage, sociologue, thèse, transidentité et sport de compétition.
Bah, déjà, dans l'entre-deux-guerres, les années 20-30, quand les femmes commencent à accéder à des compétitions, essentiellement quand même parce que des féministes se sont bougées pour pouvoir avoir des compétitions femmes, parce que les hommes n'avaient pas très envie de laisser les femmes participer.
Merci Alice Lia, notamment.
Exactement. À ce moment-là, il y a eu des craintes, notamment alimentées par le milieu médical, de virilisation des sportives, à une époque où, en même temps, des médecins, des psychologues, des endocrinologues, qui ont fait pas mal de travaux à cette époque-là, qui ont permis de créer ce qui est devenu aujourd'hui, notamment pour les personnes trans, les hormonothérapies et les chirurgies qui permettent de faire sa transition, qui concerne aussi les personnes intersexes, puisque c'est à ce moment-là aussi, alors là, de manière beaucoup moins bienveillante, même si évidemment il y a plein de problématiques sur les transitions. Mais pour les personnes intersexes, c'est aussi le moment où se met en place un cadre hyper... commence à se mettre en tout cas en place un cadre hyper contraignant sur leur corps qu'on va toucher sans leur demander leur avis. Tout ça, ça aboutit à ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y ait la mise en place des tests de féminité, qui va être vraiment le moment charnière de contrôle du corps des femmes dans le sport de compétition spécifiquement. Ces tests de féminité, ils évoluent dans leur forme. Donc, il va y avoir des tests chromosomiques. Aujourd'hui, c'est plutôt des tests hormonaux. Mais du coup, qui vont conduire à des définitions hyper restrictives de ce que c'est le sexe, de ce que c'est la binarité des sexes, et du coup, à l'exclusion de toutes les personnes qui rentrent pas dans les cases, et qui du coup ne peuvent pas réussir les tests. Donc, typiquement, les personnes qui vont avoir des cariotypes XXY, des personnes XY insensibles aux androgènes. Donc, voilà, tout un panel de féminité, de corps de femmes, qui en fait ne rentre pas dans les cadres de ces tests. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement la testostérone qui est contrôlée dans les catégories femmes.
Il y a vraiment cette tendance à remettre cette question, surtout en fait, et presque constamment, que sur les femmes trans.
Ludivine Brunès.
Cette question de la légitimité, parce qu'elles partent avec une biologie masculine considérée comme avantageuse par rapport à la biologie féminine.
Du coup, ça commence réellement pour les personnes trans, les réglementations à partir de 2004.
Lucie Palaisi.
Avec le Comité international olympique qui produit un document, le consensus de Stockholm, produit par la commission médicale du CIO, qui dit, il va y avoir un enjeu là parce que y a des personnes trans, il va sûrement y en avoir de plus en plus vu les évolutions sociales. Donc, voici ce qu'on propose aux fédérations olympiques pour réglementer l'accès aux compétitions pour ces personnes-là. Et donc, à l'époque, c'est très intéressant parce que le document ne mentionne, ne parle pas de est-ce qu'on est sur les hommes trans ou sur les femmes trans, mais quand on lit le règlement, en fait, on comprend qu'en sous-texte, ce sont les femmes trans dont ils voulaient parler réellement et que les hommes trans, ça les intéressait pas tant que ça. Parce que du coup, le règlement disait à l'époque qu'il fallait avoir réalisé son changement d'état civil. Ensuite, il fallait que la personne soit opérée chirurgicalement de ses organes génitaux et stérile, parce que derrière, l'inquiétude, c'était la parentalité. Et donc, le troisième argument, c'était il fallait suivre une hormonothérapie. depuis au moins 2 ans, je crois, dans celui-là de document. Mais du coup, c'était vraiment juste, vous devez suivre une transition médicale selon les standards médicaux de l'époque. 2015, le règlement est modifié et cette fois, il fait la distinction entre les hommes trans d'un côté, les femmes trans de l'autre, en disant les hommes trans, en gros, c'est pas un problème, demandez, si vous prenez de la testostérone, demandez une autorisation à l'Agence mondiale antidopage. Par contre, les femmes trans, vous, on vous demande de maintenir votre taux de testostérone en dessous de 10 nanomoles pendant au moins 1 an, je crois que c'était sur celui-là de règlement. Et ensuite, basculement total, qui est sûrement lié à un vrai changement de gouvernance en fait au sein du CIO. Et donc 2021, ils changent complètement leur fusil d'épaule en disant c'est pas possible en fait de faire un règlement universel parce que les sports sont tous différents et que donc désormais, si des fédérations veulent réglementer, il faut respecter les droits humains, l'intégrité physique des athlètes. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui étaient ce que défendaient effectivement les activistes trans, les activistes intersexes. Et d'autre part, il va falloir vous appuyer sur des données scientifiques solides. On se dit, ce document, il a l'air vachement bien. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce document? C'est depuis que ce document est sorti en 2021 que c'est la fête des fédérations qui passe à des règlements hyper restrictifs d'exclusion. Donc il y a eu le rugby qui a commencé en 2019, la natation l'année dernière, le cyclisme là récemment, et ça ne fait que se multiplier.
Il y a cet aspect de
Ludivine Brunès.
De toujours une perception comme quoi la femme aussi est plus faible que l'homme. Et donc, et que c'est joué par la testostérone, et que c'est pour ça qu'on ne peut pas demander à des femmes trans de jouer et de concourir contre des femmes assignées femmes, puisqu'elles partent avec un avantage, et donc ce n'est pas juste pour celles qui ont travaillé pour ça, alors que les autres, elles vont arriver au même niveau, alors même qu'elles ont moins travaillé. C'est cette perception. Alors même que les hommes trans, bon, à la base, c'est des femmes, et ils sont perçus comme, au pire, ils perdent.
Finalement, c'est là que se situent les différences de traitement et de représentation. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes trans, c'est les losers désignés. Et les femmes trans, ce sont des tricheuses ou comment on peut dire, des opportunistes quoi, en quête de médailles faciles. Quoi.
Alors même que, par exemple, on avait eu le cas avec Lia Thomas, c'est de la natation universitaire aux États-Unis. Elle a gagné la compétition, mais elle n'a pas gagné en faisant des temps référencés masculins. Elle a gagné sa course, mais en faisant un temps, elle ne battait pas les records féminins. Elle était dans la norme, mais comme c'était une femme trans, les institutions sont montées au créneau. Donc c'est toute cette illégitimité. À partir du moment où tu es une femme trans, tu es forcément tricheuse, peu importe si ta performance est totalement logique et banale.
À l'inverse, on a Laurel Hubbard, la néo-Z en haltérophilie, qui, elle, s'inscrit dans le concours féminin en tant que femme trans, et finalement, perd, et alors qu'on est sur une véritable épreuve de force, et qu'on pourrait imaginer le contraire.
Exactement, et surtout que Laurel Hubbard, quand on regarde les journaux, c'est la première femme trans néo-zélandaise qui participe aux Jeux Olympiques. Mais elle a un traitement totalement différent, presque invisibilisé, parce que elle est dans les dernières.
Au tout départ, quand il y a ces tests de féminité, l'argument principal, c'est de dire il ne faudrait pas qu'il y ait des hommes qui viennent frauder chez les femmes.
Lucie Palaisi.
Donc on surveille qu'il n'y a pas des hommes qui entrent dans cette catégorie. Dès les années 80-90, c'est passé plutôt une question d'équité. Et où ils ont réalisé que, évidemment, les personnes qui s'excluaient parce qu'elles ne réussissaient pas les tests, c'était pas des hommes qui s'étaient fait passer pour des femmes. C'était des personnes intersexes qui souvent ne savaient pas qu'elles étaient intersexes. Leur intersexuation était révélée au moment du test et qui du coup se faisaient exclure. À partir du début des années 2000, ça se focalise vraiment sur la testostérone en se disant, il y a des personnes qui produisent beaucoup de testostérone, typiquement Caster Semenya, qui était le cas emblématique. Et donc, ça s'est focalisé sur la testostérone avec des restrictions en fait de plus en plus fortes sur les taux maximum autorisés chez les femmes. Donc, au départ, c'était 10 nanomoles par litre de sang. C'est passé à 5 nanomoles dans certaines fédérations. Et là, les fédérations les plus restrictives, mais non, il y en a même des encore plus restrictives. Donc, certaines fédérations sont passées à 2,5 nanomoles et certaines excluent totalement. Donc là, par exemple, l'athlétisme aujourd'hui exclut complètement à la fois les femmes intersexes dites hyperandrogènes et les femmes trans, avec cet argument de la testostérone donnerait un avantage tellement important qu'on ne peut pas laisser.
Ça a été le cas notamment dernièrement d'Alba Diouf.
C'est ça, exactement. En France, c'était assez intéressant parce qu'en fait, c'est la première fois en France que, à ma connaissance en tout cas, il y a une athlète de haut niveau, femme trans, qui se fait exclure des compétitions.
À l'attention des sportifs et des femmes.
Les sportifs et les femmes doivent être avertis que ce produit contient un principe actif, la testostérone, susceptible de produire un résultat positif lors d'un contrôle antidopage. Les sportifs et les femmes ? Faut-il détecter ici un syllogisme caché selon lequel tous les sportifs sont des hommes ? Ou doit-on comprendre que les femmes, même si elles pratiquent un sport, restent toujours plus femmes que sportives ? C'est une façon de tracer une frontière politique à l'usage de la testostérone. En fait, prévenir les sportifs et les femmes que la testostérone peut être considérée comme une substance stimulante et illégale, hors la loi. Pour les femmes, sportives ou non, prendre de la testostérone est une forme de dopage. Gardez ce prospectus, vous aurez peut-être besoin de le relire. Paul B. Preciado, Testo Junkie.
C'est hyper compliqué d'isoler l'effet propre de la testostérone.
Lucie Palaisi.
En fonction des taux aussi, et des moments aussi de la journée, du type d'effort qu'on fait, etc., ça ne va pas avoir les mêmes effets. C'est vraiment hyper aléatoire en fonction des corps. Alors, évidemment, ça a probablement un effet sur le développement musculaire et sur les capacités sportives, mais sur certaines choses et pas sur d'autres. Et en fait, il y a des sports où ça va jouer, des sports où ça va moins jouer. En plus, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la capacité à synthétiser la testostérone par le corps, parce que c'est une chose de regarder quel est votre taux de testostérone circulante, mais en fait, votre corps, il n'utilise pas forcément tout ça. Il y a des gens qui en utilisent assez peu, donc c'est le cas, par exemple, de ces femmes insensibles aux androgènes qui produisent des taux de testostérone dans les moyennes jugées masculines, mais qui, en fait, en ont pas les effets.
Moi, j'étais très, très inquiète parce que la première fois que j'ai entendu ça, on reprenait la prépa physique avec l'ONS.
Pau, Alexia Serenis, joueuse du club L'ONS Palois Rugby Féminin, championnat national élite.
J'ai fait part à toutes mes coéquipières. Je dis, voilà ce qui se passe avec World Rugby. Il se peut que je risque de ne plus jouer avec vous parce qu'ils risquent de me mettre une barrière. J'ai reçu tout le soutien de mon club, mais vraiment tout. Et après, bon, il s'avère que ça ne s'est pas fait au niveau national. Et que derrière, la cadette, c'est la commission anti-discrimination et égalité de traitement. Elle a été créée par Jean-Bernard Marie Moll, qui est le président, sous la lancée de Bernard Laporte et Serge Simon. Premier règlement, premier travaux qu'ils ont fait, c'est l'inclusion des personnes trans. La publication qui a été faite le 17 mai 2021.
En place. Didier.
Allez, ouais, ça peut. Allez,
ça.
Allez, ça court, ça bouge.
Ouais,
parfait, ok.
Le rugby est encore en action, finalement, qui se conjugue au départ au masculin. Comment tu l'as vécu, ce rugby, au moment de ta puberté masculine ?
J'ai commencé à 14 ans. Je sortais de l'école de foot, j'avais fait 7 ans de foot avant, et je me suis servi de ce sport pour rester un petit peu dans les rails de la société, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais un énorme dilemme en moi, et j'arrivais pas à mettre des mots parce que je remets le contexte. Mes premiers questionnements sont aux alentours de 1993-94. On parlait même pas de transidentité, c'était ultra loin, c'était transsexualité, et quand on en parlait à l'époque, c'était que pour la prostitution et tout ça. Donc je savais pas ce qui se passait en moi, et je me dis ça va passer, le fameux ça va passer. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis un garçon, je fais du rugby, c'est un sport viril, on va rester là-dessus, et c'est un catalyseur pour moi. Et en plus du rugby, je faisais des études dans la mécanique auto, donc on était dans tous les clichés possibles pour que je puisse rester vraiment dans ces rails-là. Et j'ai pris goût à ce sport aussi. J'ai fait quelques sélections en Côte Basque-Lande. Ensuite, j'ai joué jusqu'en espoir, donc qui est la réserve des équipes top 14 Pro D2. J'ai fait que 6 mois après blessure sur blessure. Donc le corps, il était en train de me dire stop, parce que justement, j'ai 23 ans et j'étais à l'apogée de ma dysphorie de genre. Donc du coup, là, je savais plus qui j'étais.
À 23 ans, finalement, tu flirtes avec le haut niveau, tu as accès presque aux portes de la professionnalisation et tu te blesses pas une fois, tu te blesses pas deux fois, tu te blesses trois fois.
Enfin, là, ça devait être un tout, c'était une fatigue mentale, nerveuse, mais de tout. Et de là, je décide d'arrêter. Donc, je quitte le groupe des espoirs, je l'annonce au groupe, je l'annonce à mes coachs, je dis j'arrête le rugby, je me mets entre parenthèses. Et je commence à m'y habituer. Et en 2009, l'intersaison, j'ai un ami, il me dit ouais, viens, on va jouer à Villeneuve-de-Marsan en Fédéral 3. Ah, qu'est-ce que je fais? J'y retourne. Et qu'est-ce que je fais? Trois mois après, mois d'octobre, recraque, une grande déchirure musculaire. Et là, j'ai dit stop, je retourne voir le chirurgien. Là, il me regarde et me fait « Là, il faut que tu arrêtes un petit peu de tes bêtises. Il faut que tu me fasses une grande pause de sport parce que là, sinon, à 30, 32 ans, je t'opère des épaules, des genoux et des chevilles. Là, après, t'es fini. » Ah, ok. Et en même temps, je me fais larguer. Donc, et là, c'est un gros électrochoc. On est en 2010 et voilà. Donc, du coup... c'est là où j'ai littéralement craqué et j'ai dit stop, on fait table rase, on fait une grande introspection et on dit qui je suis, mais qui je suis vraiment. Voilà, le plus dur c'est de faire le premier pas. C'est pas de voyager, c'est de faire le premier pas.
Ok, parfait.
Faire partie de l'élite d'un sport, ça a été longtemps mon rêve. Le fait d'avoir arrêté, ça a été déjà extrêmement dur psychologiquement. Pour moi, c'était une première petite mort. J'ai fait mon coming out. Derrière, je me suis aperçu que c'était le fait d'avoir libéré ma personnalité, d'avoir libéré la femme que je suis réellement, a fait que j'ai oublié un petit peu de cet engouement que j'avais pour le rugby, parce qu'en fait, je vivais une nouvelle vie, j'avais de nouvelles perspectives, j'avais de nouveaux horizons, tout s'ouvrait devant moi. Et derrière, il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et en 2016, c'est en discutant avec un client, je suis chauffagiste, donc après l'entretien d'une chaudière, on discutait, il est à l'association du club de Mont-de-Marsan, et il m'a dit, mais pourquoi tu ne reprends pas le sport avec les filles? Non, je ne sais pas. Et là, ça m'a trotté. Et paf, voilà, ma première licence compétition, c'est en août 2016, en Fédéral 1, avec le Stade Montois Rugby Féminin. Et j'ai eu l'occasion de partir à Lens en Élite 1. Et là...
Ça y est, ton rêve est réalisé. Tu côtoies le milieu professionnel.
Mais j'ai mis quand même 2 ans avant de le réaliser quand même. J'ai mis 2 années avant de le réaliser. J'ai fait, c'est pas ce que tu voulais, jouer en élite, affronter les meilleurs du championnat de France, me faire écraser par les meilleurs du championnat de France au passage aussi. C'est un rêve. Quand j'ai repris mon rugby, j'ai mes amis proches, ils m'ont dit, t'es quand même pas la même personne. Hein. On te voit sourire, tu es toi maintenant. Moi, je suis encore de l'ancienne génération où il fallait une transition médicale avant de pouvoir prétendre à faire changer ses papiers d'identité, puisque à l'époque, il fallait faire un procès à l'État pour pouvoir se justifier avec un certificat médical comme quoi j'avais bien subi une opération d'irréversibilité, entre guillemets, de stérilisation. Et mine de tout... parce que j'aime bien cette expression aussi. En fait, c'est la société, c'est dès lors on faisait une transition, c'est non, tu peux pas jouer avec les filles parce que de par ton passé, c'est non, c'était pas possible. Moi déjà, personnellement, je me disais, mais parce que je connaissais mes capacités physiques, je connaissais tout ça. J'avais vraiment tout enregistré. J'ai dit, c'est vrai que si je joue avec les filles, ça va être un désastre. Je vais être vraiment au-dessus. Que nenni, oui, parce que quand j'ai repris, commencé mon traitement hormonal en 2012 et j'ai repris en 2016, donc 4 ans après, je pouvais toujours courir. Moi j'étais en dessous physiquement de toutes mes coéquipières. Donc il m'a fallu quand même 3 années de réadaptation, de réapprentissage de mon physique. Surtout un sport de combat comme le rugby, il y a tous les physiques dans ce sport. Ouais, je me suis fait ouvrir la tête comme un livre. J'ai pris un protocole commotion parce que j'ai failli me faire éteindre la lumière sur une percussion. Donc j'ai voulu plaquer une joueuse qui faisait presque une tête de plus que moi. Ça existe aussi. Donc,
bonjour l'inéquité.
Oui, voilà.
Maintenant, tu dois réaliser, par rapport aussi à ta médiatisation, que ta voix, elle porte et qu'elle doit être certainement inspirante pour d'autres. Enfin, est-ce que c'est comme ça que tu l'envisages ?
J'ai pris conscience que, du poids de la libération de mon coming out, on va dire, à la presse en 2018. Et je l'ai réalisé en 2019. Mais à la base, c'était pour faire taire juste deux clubs qui s'étaient plaints auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, comme quoi c'était pas normal qu'une fille qui avait joué avec les garçons avant continue à jouer alors que c'était les premiers à vouloir me recruter. Bon. Et j'ai été lauréate des Outdoor 2019 dans la catégorie sport. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu et entendu aussi la portée de mon témoignage.
Et le Outdoor est décerné à...
À quelqu'un qui fait du sport sérieusement. C'est-à-dire à Alexia Serenis.
L'euphorie totale. Waouh, c'est quoi ça ? Et là, j'étais avec un couple de mecs à la table. Je suis vraiment obligé d'y aller, là. Elle fait, ah, ma cocotte, allez, en piste. Et merde, j'ai pas fait de discours, moi. Et, au talent. J'y suis allé au talent.
Ben, en fait, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. J'ai accepté une interview avec un journaliste de l'équipe magazine parce qu'il avait entendu parler de moi parce que il y a eu des réclamations auprès de la FFR. Comme quoi, c'était pas normal qu'une personne trans pouvait jouer avec les filles parce que j'étais trop puissante. J'envoyais des caramels dans tous les sens, quoi. Voilà. Et voilà.
Née pour tenir le monde sous sa langue, n'avale pas encore. Elle ressentait toutes les choses que les autres ne ressentaient pas, ou s'ils les sentaient, ils s'efforçaient de le dissimuler. Elle ressentait les cieux et les briques et la pluie. Elle ressentait tout, ça la faisait tomber et pleurer sous une eau grimpante lorsque tout était en ruine, déchiré. Elle se sentait malade, mais elle se sentait tranquille. Combien de toi as-tu été ? Combien, bien en rang à l'intérieur, chacune tu en celle d'avant ? Combien de fois t'es-tu vu changer ? T'es-tu senti te fendre en deux ? Quand est-ce que ça arrive ? Là, maintenant ? Ou plutôt quand tu regardes en arrière et dis « C'est à ce moment-là qu'a commencé mon changement ?» Né héros, né bizarre, né chelou, né aveugle, né voyant, né homme, elle est debout. Qu'est tempeste, étreins-toi, la femme qu'est devenue le garçon.
Avant que ça se termine, est-ce que je peux vous demander comment vous vivez votre rugby à côté d'Alexia ?
C'est une fille extraordinaire et je crois que toutes ses collègues de jeu la considèrent comme une fille extraordinaire.
C'est une super joueuse et une super fille, donc ouais. Je la vois comme une joueuse, une très bonne joueuse, c'est tout.
Là, j'ai vécu un enfer. Là, elle sort de l'enfer, après tout paraît être beau. Là, t'as vécu l'enfer ce soir sur le terrain.
Non, mais je suis encore dans un sarcophage quand je me réveille le matin.
Écoute, le principal, c'est que tu ne sois pas bloqué dimanche.
Mais voilà, mais maintenant, il me faut 5-6 jours. Hein.
Si j'avais une concurrente trans, bon, en fait, je crois que je lui souhaiterais juste bon courage et bonne chance, comme je le fais à toutes mes concurrentes.
Paris, vélodrome de l'INSEP, Marie Patouillet, paracycliste sur piste et sur route.
En fait, le sport de haut niveau et les discriminations qui sont encore actives, en fait, me font juste réaliser que la base, c'est l'éducation. On est tous plus ou moins avec des privilèges, ces privilèges qui nous construisent des modes de pensée et des façons de s'exprimer qui sont en fait pas OK. Et le tout, c'est de le reconnaître et de se déconstruire, de se reconstruire en se formant, en s'informant et pas en restant sur ce qui a été fait dans le passé et en prenant pour acquis ce qui est dans le passé. Et du coup, bah, pour moi, la question de la,
des athlètes, de la présence des athlètes transgenres dans les compétitions, bah, ça relève de ça. En fait, il faut que la question soit comment est-ce qu'on fait pour inclure une personne, un athlète ou une athlète transgenre, et pas qu'est-ce qu'on a pour les refuser. Pour moi, le plaisir, il est dans l'inclusion, il est dans laisser à chacun être libre d'exprimer sa singularité et du coup de s'exprimer pleinement sur un terrain indépendamment de la performance.
Pour s'exprimer pleinement, je voudrais parler de ton coming out qui est important et qui est d'intérêt général.
Mon coming out sportif, alors déjà quand je suis arrivée dans le sport de haut niveau, j'avais pris la décision de directement afficher mon orientation sexuelle, d'intégrer, on va dire, enfin, ma compagne de l'époque à mon projet. Enfin, elle était là sur toutes les compétitions, elle venait à des entraînements, tout le monde, enfin, en tout cas, le staff connaissait son existence. Pour la simple et bonne raison que les années auparavant, bah, j'étais uniquement médecin et que j'ai eu ce passage où on n'ose pas trop dire, où on ne dit pas avec qui on vit, on va plutôt utiliser des pronoms neutres pour ne pas avoir à assumer son orientation. Et du coup, on est un peu passif de la situation et on n'est pas heureux, clairement. Enfin, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Et je m'étais fait d'abord cette première promesse à moi-même, qui est que quand je débarque, à partir du moment où j'allais débarquer dans un nouvel environnement, ça allait être acté, que mon orientation sexuelle allait être assumée pleinement. Et s'en est suivi quelques remarques désagréables. Pendant un temps, j'ai perdu mon prénom et on m'appelait la lesbienne, enfin, des choses un peu comme ça. Et le coming out, on va dire, plus public sur les réseaux sociaux et dans les médias, il est venu vraiment sur un quiproquo. Après ma première médaille internationale, j'avais mis, parce qu'on a des caractères limités dans les bios sur Insta, et j'avais utilisé l'arc-en-ciel, parce que dans le cyclisme, le maillot de champion du monde, c'est un arc-en-ciel, pas la même couleur, mais un arc-en-ciel quand même. Et au jeu, j'avais été contactée par plusieurs personnes pour parler justement de mon homosexualité. Et j'étais là, mais vous sortez ça d'où ? Parce que j'en ai parlé nulle part, en fait. Et puis on m'a dit, ah mais si, ton arc-en-ciel. J'ai dit, ah ok. Et puis en fait, j'ai trouvé le quiproquo. Je trouvais que c'était la bonne occasion de le faire. Ouais. Et puis comme en plus, je sortais de cette ambiance sexiste, raciste, homophobe, où j'en avais ras-le-bol. J'étais épuisée, alors physiquement, mais j'étais épuisée nerveusement et mentalement et psychiquement. Que je me suis dit, ben, si, en fait, profite du quiproquo et va parler, va dire ce qu'il en est, va faire un état des lieux. Et en fait, c'est venu assez naturellement et je le regrette pas du tout.
S'outer, c'était s'assumer, mais c'est aussi gagner. Enfin, je reprends la phrase, une phrase marquante de Megan Rapinoe à l'issue du match face aux Bleus à la Coupe du Monde 2019, qui dit « On ne peut pas gagner une grande compétition sans personne gay dans une équipe ». Elle a même ajouté « C'est scientifiquement prouvé ». Bon, hein, c'est la queen, donc on peut pas lui en vouloir.
C'est surtout que l'orientation sexuelle, c'est quand même une grande partie de nous, enfin, de chaque individu. C'est... ça relève du désir, ça relève... pour moi, c'est une partie essentielle qui construit chaque individu. Et de ne pas être libre de l'assumer, parce que c'est surtout ça, en fait. Parce qu'à la limite, qu'on n'ait pas envie de faire un coming out public, ça peut se respecter, ça peut s'entendre. Vu que le coming out public, il reste très politique, il n'est pas... Ou alors, je déconseille aux athlètes de le faire d'un point de vue purement personnel. Il faut avoir conscience qu'il est politique, il est pour... partager, il est pour essayer de faire avancer les choses, il est juste, ne serait-ce que pour donner de la visibilité. Mais pour moi, c'est essentiel, on nous demande d'aller chercher notre meilleure performance. Quand on sait quel impact a le mental sur le corps, c'est très simple, un corps qui est prêt mais le mental n'est pas là, on n'en fera rien. Un corps qui est fatigué mais où le mental est à bloc, mais il peut faire des miracles en fait. Et ne pas être libre d'exprimer ou en tout cas de vivre son orientation sexuelle, c'est mettre un frein à la performance. Il y a une phrase d'Aloïs Sauvage qui a reçu le têtu de la performance la plus haute avec sa performance à la Ouette et qui a dit, mais en fait, c'est en étant dans un environnement safe qu'on devient hot. Et bien en fait, c'est dans un environnement safe qu'on devient performant.
Je croyais que le pire, c'était à venir, ouais, sauf que nous voilà. Quand je croyais que c'était un jeu, toi tu savais bien que nous deux c'était pas ça. Comme d'hab là je porte ton jean sur le capot. T'es quoi c'est cool, oh, oh. Je crois que je suis folle de toi. Je veux qu'on décolle, je veux qu'on décolle. Donne-moi ton corps de femme. Donne-moi.
Il y a aussi
la pression fédérale, la pression médiatique et les politiques en fait mises en place aussi par les institutions qui cherchent toujours, en tout cas en ce qui concerne la sportive, à hyper érotiser son corps, faire en sorte que en fait elle soit désirable, comme dirait Muriel Robin, pénétrable par le regard et le désir des hommes qui vont être face à leur écran ou dans les tribunes. Est-ce que ça, c'est vraiment le poids et le sujet numéro un qui vient complètement silencier finalement celle qui voudrait prendre la parole?
Ça, je ne saurais pas trop te dire.
Parce que toi, tu l'as évité ça en fait. On sent que, tu vois, tu as un look qui défie les codes de la féminité, les normes de la féminité. Tu fais hyper libre, enfin, tu vois.
C'est sûr que de manière assez insidieuse, il y a des normes dans lesquelles on a l'impression qu'il faut rentrer pour être sur la bonne raille et ne pas en sortir. Combien de fois on m'a dit que... Enfin, on ne l'a même pas dit en face. Ça m'est revenu à mes oreilles que parce que je prenais la parole sur tel média, parce que je faisais telle photo, parce que j'étais un peu trop côté mode et pas assez côté sportif, que du coup, je ne m'entraînais pas. Et pourtant, les pères sont là. Enfin, je continue à perfer et je m'épanouis comme ça. Et c'est vrai que j'ai la chance, moi, d'arriver tardivement dans le haut niveau et d'arriver avec... en sachant un peu plus qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et du coup, je m'en contrefous de ce que pense de la vie de mon staff sur à quoi je ressemble. Est-ce que je suis désirable? Est-ce que je ne le suis pas? Ça me passe au-dessus. Mais si je me vois 10 ans en arrière, ouais, je pense que j'aurais pas eu le cran de me raser la tête et de me faire mes colorations ou de m'habiller... avec un style totalement androgyne, qui est totalement fluide. Mais à côté de ça, bah, c'est con, mais je suis tellement fière d'être lesbienne que bah, c'est là, quoi. Et vous n'avez pas le choix de le voir, en fait. Prenez-le en pleine face et profitez-en, en fait.
Et puis ça te vaut un têtu. Oui. Parce que cette année, c'était fou quand même. Tu es la personnalité sportive de l'année lors de la cérémonie têtu. Et finalement, qui te remet ce prix? Roulement de tambour, tu t'y attendais pas?
Ouais, Tony Estanguet, franchement, j'ai été hyper émue. Parce que c'est vrai que quand on se croise, on discute de ces sujets-là. Paris 2024 est au courant de mes engagements, surtout pour la cause LGBTQIA+. Et ça m'a touchée qu'ils viennent mettre les pieds dans la communauté, prendre la parole à ce micro sur la scène de l'Olympia et me remettre le prix derrière d'aller faire l'interview avec la Big Bertha dans la drag room. Enfin, j'ai trouvé ça juste génial. Et moi, je trouvais que c'était une soirée qui était remplie d'espoir.
Juste un mot pour illuminer la nuit, au milieu du ciel sans appui. Un ruban léger auquel s'accrocher pour croire qu'il sera encore possible d'aimer.
Je ne sais pas si ça pourrait exister des Jeux Olympiques réellement complètement inclusifs, ouverts, etc. Par contre, ce que je sais qu'on peut faire, c'est juste, bah, vous réglementez rien. Les femmes, elles vous disent qu'elles sont des femmes et qu'elles doivent aller dans une compétition femme. Eh ben voilà, elles s'inscrivent dans la compétition femme et point. De manière générale, pourquoi est-ce qu'une personne trans devrait être out dans le sport de haut niveau, alors qu'en fait, le droit au respect de la vie privée, c'est que si vous avez envie de dire à personne que vous êtes trans, ben vous avez le droit de dire à personne que vous êtes trans. Et le sport de haut niveau s'arroge le droit de dire aux gens, non, ici vous êtes obligé de vous outer. Du coup, de vous exposer à toutes les violences dont on sait que les personnes trans sont les premières victimes.
Il faudrait que chaque fédération soit informée et accepte de comprendre qu'un individu peut être à l'intersection de plusieurs discriminations. C'est-à-dire qu'on peut être une femme qui est une première discrimination, racisée qui en est une deuxième, lesbienne qui en est une troisième et avec un handicap. Et là, on a quand même une belle intersection discriminatoire. Et du coup, pour moi, l'intersectionnalité, ben, en fait, c'est... Ça caractérise la lutte contre ces discriminations, c'est-à-dire que c'est une lutte qui est plurifactorielle. Et en fait, c'est pour moi la seule manière d'être réellement inclusif.
La FFR, maintenant, est vraiment modèle en termes d'inclusion, puisque on est la première fédération nationale à avoir le label FIER. Et là, notre combat actuel, c'est de rendre le rugby loisir mixte.
Demande une évolution sociale large. Si on veut que les femmes aient les mêmes chances de participer dans des compétitions mixtes, c'est pas juste demain on met la mixité et c'est réglé. Non, c'est demain On pense la socialisation de nos enfants différemment. On pense le financement de nos sports différemment. Enfin voilà, c'est vraiment un changement global qu'il faut.
Vivement le jour où tout le monde sera sensible à toutes les discriminations, qu'il en soit directement ou indirectement lié, quoi. J'aimerais que des hommes soient capables de parler de sexisme et pas sous le format ouin-ouin. Moi, je suis pas sexiste, j'ai une amie femme. J'ai quand même des hommes à mes côtés et puis j'ai participé à une table ronde organisée par Isaura Tibus où était invité Axel Toupane, le basketteur. Et j'ai été assez étonnée d'ailleurs au début qu'il y ait un homme sur une table ronde qui parle de visibilité des sportives. Et j'étais assez surprise de la posture qu'il avait parce qu'il était là. Ce qui m'a marqué, c'est que le plus grand soutien qu'il nous ait apporté à ce moment-là, c'est par son silence.
Venez d'écouter le premier épisode d'Enquête des possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des petites étoiles. Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.
Merci, bravo. Alors, on a très peu de temps, donc je pense qu'on va aller droit au but. Mélina, déjà pour commencer, c'est quoi ta relation au sport et comment t'es venue l'idée de faire ce podcast ?
Une relation passionnée, passionnante aussi. C'est le sport qui m'a construit, qui fait partie de mon être complètement et qui a été d'une certaine façon, pour reprendre les mots d'Alexia, catalyseur et qui m'a guidée dans tout mon parcours encore aujourd'hui. Et quelle était la deuxième partie de question ?
Non, bah c'était justement par rapport à ce podcast. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de faire ça ?
Eh bien, parce qu'on se retrouve face à des événements planétaires sportifs qui sont tout aussi passionnants qu'ils nous mettent en effroi et que c'est compliqué de vivre ce conflit intérieur. On l'a vu avec la dernière Coupe du Monde, notamment au Qatar, qui a soulevé plein de problématiques. C'est encore le cas avec les Jeux Olympiques 2024. Et Pour résoudre ce conflit, il faut partir en quête, il faut essayer d'en comprendre les contours, les nuances. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, avec l'idée, bien sûr, de réinventer des possibles et de ne pas parler que de déconstruction, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait après s'être déconstruit, quoi.
Et Alexia, Marie, pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à ce podcast ? Et est-ce que parfois vous êtes fatiguée de parler davantage de LGBTI-phobie que de vos performances sportives ?
Est-ce que je suis fatiguée parfois ? Alors la réponse est oui, parce que ça prend de l'énergie de participer à ces interventions quand il y a l'entraînement à côté. Mais en attendant, quand je suis rentrée des Jeux de Tokyo, je l'ai dit un peu dans le podcast, mais je vais le redire, j'étais vraiment dégoûtée du sport de haut niveau, avec tout ce que j'avais entendu, avec tout ce que j'avais observé. J'avais même plus envie d'y retourner. Et quand, avec mon entraîneur, on a fait le point sur la Paralympiade passée et qu'il m'a dit « Non, mais Paris, il peut y avoir des belles choses qui soient faites », je lui ai dit « Ok, mais par contre, si je vais à Paris, je ne me tais pas et je dépenserai de l'énergie dans mes interventions, même si ça doit entraîner une fatigue supplémentaire. » Donc en fait, moi, dans ma tête, ça fait partie du contrat. Je n'irai pas aux Jeux de Paris sans parler. Enfin, ou alors, si c'est pour y aller et juste aller chercher une médaille, je m'arrête.
Et toi, Alexia ?
Un petit peu pareil. C'est vrai que ça prend de l'énergie. On aimerait ne pas en parler, que ce soit un non-sujet. Mais bon, moi, ça me fait voyager. Parce que moi, je suis perdu dans la forêt landaise. Donc, moi, au moins, ça me fait voyager. C'est très bien. Il faut savoir qu'il y a peut-être autant de personnes que dans mon village ce soir. Donc, voilà. Vous pouvez comprendre. Mais non, oui, c'est vrai que c'est fatigant toujours de se répéter, de se justifier, de toujours faire de la pédagogie, de l'éducation, c'est à répétition. Mais pour la petite parenthèse, je crois que déjà dans le rugby, au niveau de la fédération, on a eu du positif de faire de cette un petit peu d'éducation et de pédagogie. puisque mercredi, il y a eu le premier symposium en marge d'un mondial de rugby, et dont j'ai participé. Alba Diouf aussi, Jérémy Clamy-Edrou était là, il y avait Ben Cohen, champion du monde anglais 2003, qui lui, il a tous les défauts possibles si c'est des ronds. Et mais il y avait aussi Gareth Thomas, il y avait des sociologues, donc on parlait, donc c'est le sujet, c'était le libre arbitre dans le sport. Et il y avait le président de France 2023, il y avait des représentants de World, enfin les représentants de World Rugby par France 2023, mais il y avait les hautes instances de la FFR. Et au final, à la fin de la journée, ils étaient mais tout émerveillés des possibilités que l'on pouvait faire. Et en fait, ils étaient tout simplement dire mais non, on va bosser, et on va faire en sorte que ça soit safe pour tout le monde.
Et il paraît même qu'il y avait la fédération handisport qui était présente.
Ah, peut-être.
Ça, c'est une grande nouvelle.
Moi j'ai presque dormi un petit moment, donc c'était très long. Et bon, le petit bémol, c'est que le même jour, comme par hasard, la commission médicale de World Rugby pour la révision triannuelle du règlement des personnes trans était à Bordeaux. Pourquoi ils ne sont pas venus nous voir? Et ben non. Donc, alors normalement, alors pour faire un petit flashback, donc en 2018, quand World Rugby avait décidé d'exclure les femmes trans, au début c'était les mots, c'était exclure. Et derrière, ça a fini en non-recommandation de sélectionner au niveau international. Mais voilà, après, ce sont les fédérations qui choisissent derrière si on les met, on intègre au niveau international. Et petite anecdote, les Anglais, il y a 3 ans, ils faisaient, OK, les femmes trans jouent, mais il ne faut pas qu'elles fassent 1m75 et plus de 80 kilos. OK, très bien. On prend le 15 de la Rose sur un groupe de 30.
Il n'y a que le 9. Qui joue pas.
Ah non, il y en avait un peu plus. J'ai compté, il y en avait 12. 12 qui rentraient dans ces critères. Donc, je fais un petit parallèle. En fait, il y a vraiment une sacralisation du corps de la femme. Le fait, on ne doit pas être trop grande, on ne doit pas être trop costaud, on ne doit pas être trop musclé, on ne doit pas être trop tout. Et mais au final, on se retrouve avec n'importe quoi parce que. Ouais, une pilier anglaise faisait 1m82, je crois, ses mensurations, c'était 1m82, 97 kilos, mais c'est un monstre. Moi, je me chie dessus si je la vois en face de moi. donc voilà un petit peu tout ça. Donc, eh bien, en fait, le fait d'avoir fait ce symposium, et en plus, aujourd'hui, donc, ma tenue fait que voilà, je suis encore en tenue de sport. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai arbitré le premier tournoi qui s'appelle... c'est Rugby is my pride, donc organisé par les Coqs Festifs et la Cadette, donc la commission antidiscrimination dans laquelle je fais partie, et en collaboration avec France 2023 et World Rugby. Il y avait toutes les autres instances qui étaient présentes cette journée-là, et ils ont pu voir que le rugby s'est fait pour tout le monde. Et j'espère que on va gagner le combat de la mixité derrière, parce que c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné encore.
Justement, dans ce que tu racontes, on entend bien que le sport, c'est aussi une espèce de miroir grossissant de la société où se jouent et se surjouent quelque part les tensions autour des genres, des sexualités. Dans quelle mesure, justement, le sport a aussi un enjeu d'exemplarité ? Est-ce que, en fait, ce qu'on décide dans le sport peut servir à la société, à votre avis ? Est-ce que, justement, ces questions autour de LGBTI-phobie dans le sport, ce qu'on va... tenter d'y résoudre, en fait, ce qui se décide là-dessus peut servir à l'ensemble de la société.
Alors moi, déjà, je pense que le sport de haut niveau est très, très en retard par rapport à la société sur ces questions-là. Après, pour répondre à ta question, quand on est sportif de haut niveau et qu'on porte un maillot de club élite, qu'on porte un maillot national pour une compétition internationale, il faut prendre en considération que notre personne, elle a une part de politique, elle a une part d'exemplarité, elle a une part d'éducation et d'information. Et du coup, il faut être conscient de toutes ces choses-là et essayer de faire passer, si on en est capable, parce que ça, j'entends aussi que tout le monde n'est pas capable de parler de son orientation sexuelle pour donner de la visibilité. C'est de prendre la parole et d'essayer de montrer l'exemple.
Nous, on a 2 exemples au niveau du 15 féminin, où avec le mariage de Pauline Bourdon et Laure Sensus, donc, qui maintenant c'est Pauline Bourdon Sensus, elle a choisi de porter le nom de sa femme. Et ensuite, Agathe Socha, pendant le tournoi Destination, qui a quitté le groupe du 15 pour aller rejoindre sa femme qui était... qui a accouché de leur première fille. Donc nous, déjà, au niveau du 15, on a déjà ces quatre personnes qui sont vraiment des rôles modèles pour toutes les petites, enfin, toutes les jeunes qui peuvent se projeter en elles. Et plus la capitaine du 15 de France, l'ex-capitaine, je vais me faire taper sur les doigts, mais qui est un rôle modèle pour toutes les jeunes filles.
Et aussi, en fait, on l'entend dans le podcast, vous parlez beaucoup de la sécurité, en fait, comme si les personnes LGBT, surtout les personnes trans et surtout les femmes trans, étaient une menace pour l'intégrité physique des femmes cisgenres. Mais on pose rarement la question dans l'autre sens. Est-ce que vous, en tant qu'athlète LGBT+, vous vous sentez en sécurité dans des fédérations parfois lesbophobes, transphobes et qui vous pose la question, en fait, de comment vous vous sentez sur le terrain et en dehors du terrain?
Moi, je vis dans un monde Disneyland, bisounours. Et donc, moi, tout se passe bien. Et il y en a d'autres, c'est un enfer. Puisque j'étais avec Alba Diouf mercredi, et on voit la différence qu'il y a entre ma Fédé et World Athletic, qui sont... c'est des abrutis finis, il faut dire le mot. C'est vraiment des cons. Non, mais il faut vraiment le dire au bout d'un moment. C'est vraiment que du préjugé. Certains se basent sur des données qui ne sont pas du tout scientifiques.
Je ne sais pas si tout le monde a la ref, mais Alba Diouf, qui est une athlète, n'aura pas le droit de participer au JO de Paris 2024 alors que c'était son rêve, parce que c'est une femme trans, en fait.
Qu'elle s'approche des minima, qu'elle est à 2/100 des minima pour être qualifiée pour les Jeux.
Ouais, c'est un dérèglement inepte et transphobe, en fait.
Voilà. Alors, Alba peut concourir au niveau départemental. Voilà. Elle peut. Voilà, c'est la réponse de la Fédé d'athlétisme française. Elle peut, mais c'est au niveau départemental. Mais parce que déjà au niveau régional et national, ça compte pour les classements mondiaux. Et c'est comme... la Fédération d'athlétisme française n'est pas fermée, mais ils sont menottés à cause de ce classement. Donc si Alba concourt dans le régional ou national avec d'autres filles, toutes les autres filles ont le temps... qui sont déclassés. Donc voilà un petit peu l'absurdité. Alors, il faut savoir que, parce que j'en ai discuté avec Sandra Forgue, puisqu'elle était aussi présente au symposium, et elle est très loin des temps de Marie-Jo Pérec, et on était dans les années 90 avec cette athlète. Et pourtant, une référence de l'athlétisme français, elle est très très loin. Et on a eu... J'ai fait une petite intervention sur RMC il y a quelques mois où j'ai cru que j'ai failli monter sur Paris et les dégommer. C'est notamment une féministe que je fracasserai un jour. Et Barbara Lefrèvre. Ah non, mais elle aussi. Je peux pas la supporter, celle-là. Ouais, non, mais je m'en fiche. Moi, je dis clairement les choses. Elle a eu des propos. Alba Diouf aurait piqué la place des femmes cis. Non, faut pas dire ça. Non. Elle est loin des résultats. Quand on regarde les résultats internationaux, la France en athlétisme a un niveau très faible. Il faut être réaliste. Là, en athlétisme, on est très nul en ce moment. Il n'y a pas eu les moyens mis correctement. On a vu que déjà les JO précédents, c'était pas terrible. Et là, c'est encore pire. Donc voilà, c'est. Ah, moi, j'étais énervé, j'étais sur un toit en train de ramonner. Et quand j'ai entendu tous ces trucs, j'ai dit non, pas du tout. Donc,
est-ce que tu ramonnais pour de vrai? Non, mais. Et toi, Marie.
Donc voilà, c'est.
Marie, est-ce que toi, tu te sens en sécurité? Est-ce que tu trouves que la fédération agit de la bonne manière? Et est-ce que tu te sens aussi écoutée?
Est-ce que je me sens en sécurité? En soi, j'ai pas peur pour ma vie quand je vais m'entraîner. Après, je suis aussi préparée psychologiquement à entendre des blagues, à entendre des remarques, à entendre des ragots. Quoi qu'il en soit, au sein de ma fédé, dans mon staff, quand on parle de moi, c'est la problématique Marie Patouillet. Donc, avant même que j'ai pu m'exprimer, je suis un problème. Et moi, ce qui me frappe, c'est le nombre d'athlètes... quel que soit le genre, qui sont out dans toute leur sphère de vie et qui ne le sont pas en fait dans leur milieu fédéral. Ça veut dire que pendant les compétitions, quand on part aux Jeux paralympiques, on part un mois avec eux et c'est un mois où tu ne peux pas vivre tel que tu es. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut performer dans ces conditions-là.
Et d'ailleurs, tu le dis dans le podcast, c'est, si on ne peut pas se sentir safe, ça nuit aux performances, en fait. Donc,
Ça fait forcément des pensées parasites. Ça fait forcément qu'on n'est pas focus sur la perf, qu'on va dépenser de l'énergie à autre chose, de l'énergie à mentir, de l'énergie à cacher. On va probablement faire de la peine à la personne avec qui on partage notre vie en dehors du sport parce qu'on n'est pas dispo tout le temps. Et voilà, donc non, moi, pour moi, c'est contre-performant d'évoluer dans un milieu comme ça.
Oui, je rebondis parce que ça a été quantifié, cette perte, cette énergie
ce
qui est prise.
Mais
vraiment, quand en fait on n'est pas out dans notre équipe, ou même dans notre sport, ça prend entre 25 et 30% de l'énergie. Et donc, ça serait potentiellement de l'énergie gaspillée pour la compétition. Si on a ça en plus, après, forcément, on a de meilleures performances, on a de meilleurs résultats. Mais ça a été quantifié, je ne sais plus. Moi, c'est Jean-Michel à peu près, là, le nom de l'étude, je ne m'en souviens plus du tout.
C'est Megan Rapinoe. Scientifiquement,
ouais, voilà. Non, là par contre, ouais, je sais plus. Je crois que c'était Félix Pavenko qui m'avait donné ce chiffre-là. Donc qui fait des études, qui a fait une des études dans la sociologie du sport pour les personnes trans.
Justement, il nous reste 3 minutes, je crois. Mais avant ça, je voulais juste vous demander aussi, à votre avis, enfin, ce podcast est une piste de solution aussi, mais quels seraient vos outils, vos pistes de solution, vos propositions, vos recommandations pour justement mieux inclure les athlètes LGBTI+, pas les inclure, mais qu'ils et elles se sentent mieux, en fait, sur le terrain et en dehors.
C'est un gros problème.
Vous avez 4 heures.
Ouais, si je peux avoir 4 heures, ce serait...
Non, tu as 2 minutes.
Non, mais déjà que, enfin, quand on prend les staffs, quand on prend même les sportifs, je suis désolée, mais la population LGBTQIA+ n'est pas du tout, en termes de pourcentage, n'est pas du tout. Enfin, moi, là, je parle du sport individuel, n'est pas du tout représenté quand on voit le pourcentage dans la société et le pourcentage dans le milieu sportif.
Ça implique peut-être que beaucoup d'athlètes
se sentent exclus et se sentent pas assez safe pour pouvoir accéder ou alors subissent des discriminations qui leur empêchent d'exprimer leur performance et d'accéder au haut niveau. Mais enfin, je veux dire, moi, mon staff, homme, cis, hétéro, blanc, et c'est que ça. Les seules questions quand ils parlent de LGBT, enfin de la communauté, c'est de me poser la question de savoir si je fais l'homme ou la femme au lit. Enfin, on en est là, quoi. Donc, en fait, il faudrait reprendre la base, tout déconstruire à coups de bulldozer et reconstruire. Mais vu que quand on propose ça, je suis identifiée comme une problématique, il me faut plus de 4 heures.
Ouais. Pardon,
j'ai plus de
et
temps.
Toi, vas-y.
Elle a pris les 2 minutes, c'est trop tard.
Mélina, d'ailleurs, justement, est-ce que ce podcast, pour toi, c'est une piste de solution ? Qu'est-ce que tu voudrais proposer d'autre aussi ?
Déjà, moi, je trouve qu'il y a un manque de... Enfin, on voit l'arrivée, on voit deux femmes épanouies qui se sont outées, mais on oublie, en fait, que ça coûte de faire une transition, que c'est difficile, que ça coûte de s'outer, de parler de son orientation sexuelle, et que ça... Évidemment, ça impacte la performance, mais ça impacte toute la vie. Et en fait, je trouve que ça, c'est pas. Enfin, quand on se fie finalement à des réglementations, on se fie à l'État, à papa. Et alors qu'on s'aperçoit que quand on navigue entre nous, on est capable en fait de se respecter et de respecter le sport que l'on fait, que l'on soit adversaire ou coéquipière. Et donc il y a un peu une chape de plomb comme ça, étatique et des instances qui vient nuire en fait à cette solidarité, cette unité tacite du terrain, je trouve.
Est-ce qu'on a le temps de prendre une question du public ou deux ? Dépêchez-vous avant qu'on m'interdise. À cause d'un règlement. Peut-être qu'il n'y en a pas. En attendant, peut-être qu'on peut dire à partir de quelle date l'épisode sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Même le podcast sera disponible.
Alors, demain, 19h sur Radio So Good. Et à partir du 18, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur les plateformes d'écoute.
Et donc, on tape Enquête des possibles.
Enquête des possibles.
Voilà. Et donc, est-ce que dans le sport, tout est possible ? Est-ce que, justement, on pourrait faire fi de cette loi du plus fort ou de la plus forte ? Et tenter de faire du sport un outil aussi d'empouvoirment, de dépassement de soi et des limites de la société.
Là, on a 8 heures, c'est ça ?
Non, mais Je suis désolé. C'était pour meubler en attendant qu'il y ait une question du public, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, il reste peut-être 2 minutes.
Là, il est 19h.
Ok, je me tais. En tout cas, merci beaucoup Marie Patouillet, merci beaucoup Alex Sereneris, et merci beaucoup Mélina.
Merci à toi.
Merci à vous.